Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Urbania et Quatre-Temps. Au programme, qu'est-ce qu'une augmentation salariale décente en période d'inflation? Ensemble, rêvons le jardin botanique. Et l'intelligence artificielle accentuera-t-elle les écarts de classe sociale? Bonne écoute.
Qu'est-ce qu'une augmentation salariale décente en période d'inflation? Un texte de Gabriel Thibault-Delorme, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Votre patron demande à vous rencontrer demain matin. Nerveux, vous ouvrez le courriel et vous rendez le lendemain dans son bureau d'un pas hésitant. Après quelques banalités, il vous annonce que même si votre performance répond aux attentes, il n'a pas d'autre choix que de baisser votre salaire cette année. Comment réagir? Plusieurs d'entre vous vont naturellement s'offusquer ou menacer de démissionner. D'autres vont encaisser le coup avant de peaufiner leur CV. Une chose est sûre, personne ne va calmement accepter ça sans une maudite bonne explication. Pourtant, c'est ce que nous faisons chaque année quand nous acceptons une hausse salariale nettement plus basse que l'inflation. Cette année tout particulièrement, alors que l'inflation se situe aux alentours de 7 %, 6,8 % en 2022, nous ne serons que très peu à pouvoir profiter d'une augmentation de 7 % ou plus. D'autant plus qu'en moyenne, les employeurs n'ont pas prévu d'excéder les 4,1 % en 2023, bien que cela soit au-delà des hausses habituelles qui avoisinent les 2-3 %, ce n'est pas suffisant pour contrer la baisse du pouvoir d'achat. En résumé, si les prix montent et que votre salaire reste le même, vous ne pouvez pas consommer autant avec votre argent. C'est insidieux et on peut voir l'effet de la baisse du pouvoir d'achat entre le niveau de vie de nos parents et le nôtre. Si l'inflation monte en flèche, cet effet est encore plus prononcé. Sachant cela, comment doit-on se préparer pour une révision salariale avec notre employeur? Doit-on demander 7 %? Pas nécessairement, car les employeurs aussi doivent composer avec l'inflation. Tout coûte plus cher pour eux également, incluant la masse salariale. Même si vous pensez mériter une hausse égale ou supérieure à l'inflation, il est peu probable que vous l'obteniez. Mais examinons ensemble deux stratégies. Dans la première, vous visez 7 % ou plus et dans la deuxième, vous visez moins. Vous visez l'inflation. Dans ce cas, même si votre salaire ne fait que suivre l'inflation, vous devrez quand même plaider pour votre cause. Pour ce faire, vous devez faire vos devoirs, soit 1. Connaître le salaire moyen et les hausses de salaire moyenne pour votre position. Faites le tour des offres d'emploi ou appelez un chasseur de tête. Si vous exigez 80 000 pour un emploi à 60 000 vous risquez de vous buter à une porte fermée. Mais si vous remarquez que vous êtes sous-payé, vous avez maintenant un argument de poids. 2. Connaître votre valeur ajoutée. Vous avez décroché un contrat de 20 000 alors vous avez amélioré la performance d'un processus où une opération de 2 semaines prendra maintenant 2 heures à être effectuée, mais vous avez surtout permis à votre employeur de gagner de l'argent, ou d'en perdre moins. Voici le genre d'argument qui peut donc jouer en votre faveur. Il ne vous manque plus que la confiance pour les plaider. Il n'y a rien de garanti, mais au moins, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous visez une augmentation moins élevée. Vous êtes conscient que vous ne risquez pas d'obtenir l'augmentation rêvée. Vous pouvez toutefois profiter de la conjoncture pour des demandes spéciales. Vous rêvez d'une semaine de vacances de plus, d'un nouvel équipement, d'un meilleur remboursement des dépenses, d'un horaire allégé. Voici l'occasion de les demander. Et si vous êtes profondément déçu de votre augmentation, n'oubliez pas qu'il vous reste une dernière option pour augmenter votre salaire de façon significative. Changer d'emploi. C'était « Qu'est-ce qu'une augmentation salariale décente en période d'inflation? » Un texte de Gabriel Thibault-Delorme, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Ensemble, rêvons le jardin botanique. Un texte de Anne Charpentier, paru dans la revue Quatre Temps à l'automne 2021. Les enjeux liés au changement climatique et à la perte de biodiversité nous poussent tous à l'action. Alors que son centenaire se profile à l'horizon, le Jardin botanique de Montréal actualise sa vision et s'ancre plus que jamais dans les aspirations actuelles de la société. Considéré comme l'un des 10 jardins botaniques les plus importants au monde, le Jardin botanique de Montréal, qui aura un siècle en 2031, se dotera bientôt d'un plan directeur, le premier de cette envergure depuis sa fondation. Le jardin a de formidables aspirations, notamment sur le plan écologique, et nous nous préparons à y répondre. Porté par une vision inspirante, ce document comportera, entre autres, des idées de projets sur l'expérience de visite et du site, ses aménagements, ainsi que sur son rôle dans la communauté, ainsi qu'à l'international. Élaborer un plan directeur est une entreprise colossale. Les défis du jardin sont en effet nombreux, et les voies qui l'apprécient multiples. Nous avons donc mené plusieurs projets de front. Le premier est notre démarche participative « Rêver le jardin botanique 2031 ». Cette approche m'était très chère, car une démarche collaborative avait été préconisée pour imaginer le nouvel insectarium dont j'ai eu le privilège d'être la directrice. « Rêver le jardin botanique 2031 » repose sur un vaste sondage mené auprès de citoyens à l'été 2020 et sur une série d'ateliers auxquels ont participé à la fois des citoyens et des représentants de la grande équipe du jardin et d'Espace pour la vie, tous corps de métiers confondus. La moisson, immense, a permis de dégager 7 orientations. 1. Leadership et exemplarité. Le jardin occupe une position privilégiée pour contribuer à la transition écologique. Il doit assumer son leadership en la matière et faire preuve d'exemplarité. Il doit également contribuer à faire évoluer les comportements et s'investir dans un projet de société viable. 2. Rôle des végétaux. Les plantes sont perçues comme des alliés naturels de la vie humaine, tant par leur esthétique que par les services écosystémiques qu'elles assurent. Le jardin botanique doit témoigner des technologies qui peuvent en émerger. 3. Caractère scientifique. La science apporte de la crédibilité et des assises solides à tout projet, quel que soit le domaine. Le jardin doit continuer d'être un modèle de recherche en biologie végétale et dans les champs d'expertise associés aux pratiques horticoles et aux phytotechnologies. 4. Expérience sensorielle.
Le jardin doit répondre aux besoins d'immersion, de contemplation et de découverte de la nature. Il doit favoriser la reconnexion avec les végétaux en proposant des expériences axées sur le sensoriel et l'émotif pour mettre en valeur les bienfaits de la nature et de sa beauté. 5. Expertise au service des citoyens. Le jardin doit mettre son expertise de recherche et son savoir-faire non seulement au service des citoyens, mais aussi auprès de groupes ayant des intérêts communs et à l'international. 6. Implication citoyenne. En plus d'impliquer les citoyens et de leur permettre d'être des acteurs de la transition, le jardin doit répondre à leurs préoccupations et les intégrer davantage à son fonctionnement. 7. Importance du lien avec la nature. Le lien avec la nature doit transcender toutes les actions du jardin botanique. Le jardin botanique en transition. En parallèle, plusieurs études ont été lancées. Il s'agit par exemple de documenter la valeur patrimoniale de l'institution, de mieux prendre en compte la faune présente au jardin ou encore de comprendre les mouvements de l'eau et les pertes dans nos étangs et nos ruisseaux. On souhaite aussi connaître les parcours de visite favoris et la mobilité opérationnelle. Enfin, il est indispensable de réfléchir au futur de nos collections de serres et des jardins extérieurs, notamment en ce qui concerne leur adaptation au changement climatique. Car, bien que notre jardin botanique soit exceptionnel, il fait face à quelques enjeux. Plusieurs infrastructures sont par exemple désuètes et nécessitent des travaux importants. Le bâtiment Marie-Victorin, dont l'architecture Art déco est unique à Montréal, fera l'objet de travaux en 2022-2023. Nos serres de conservation et d'exposition ont besoin de rénovations très importantes pour demeurer l'oasis de biodiversité tropicale si chère aux Montréalais. Un bilan moyen des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'Espace pour la vie 2016-2018, a démontré que la consommation de gaz naturel pour chauffer les bâtiments et les serres du jardin botanique constitue la principale source d'émissions de GES d'Espace pour la vie, toutes institutions confondues. Le jardin consomme aussi une grande quantité d'eau potable, tant pour assurer l'arrosage que pour compenser les pertes d'eau dues à l'évapotranspiration ou aux fuites des divers bassins et étangs. De plus, le jardin a été conçu à une époque où l'automobile occupait une place importante. Les voies de circulation principales avaient été pensées en fonction de la circulation automobile à l'intérieur du jardin. Les choses ont bien changé depuis. Pourtant, la vision des fondateurs, le frère Marie-Victorin et son architecte paysagiste principal, Henry Tusher, résonne encore aujourd'hui comme s'ils avaient su prédire l'avenir. Citation. Avec la concentration grandissante de la population dans les grandes villes et l'éloignement de la nature que cela entraîne, il me semble que le jardin botanique de l'avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le citadin déraciné à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature dont, après tout, fait partie l'homme. Fin de citation. Programme d'un jardin botanique idéal publié en 1940, Henry Tusher, directeur des services techniques, concepteur des plans et aménagements du jardin botanique dès 1931. Dans les années 1930, il n'existait pas de données pour démontrer les bienfaits de la nature sur l'être humain. Des milliers d'études scientifiques ont depuis prouvé que la nature contribue à une meilleure santé physique et psychologique. Les jardins botaniques, avec leur nature admirablement mise en scène, sont bien placés pour répondre à cette quête de bien-être. Nous espérons déposer en 2022 le plan directeur du jardin botanique et les principaux projets qui en définissent les contours. Une autre démarche de consultation permettra aux citoyens d'exprimer leurs préférences et leurs priorités, car le jardin botanique de Montréal appartient à la collectivité. Je souhaite ardemment que son 100e anniversaire soit l'occasion de sa remise en beauté, afin que sa visite nous transporte en tout lieu, mais aussi que l'institution incarne la transition écologique pour les générations futures. C'était « Ensemble rêvons le jardin botanique », un texte de Anne Charpentier, paru à l'automne 2021 dans la revue Quatre Temps.
L'intelligence artificielle accentuera-t-elle les écarts de classe sociale? Un texte de Billy F., paru le 14 mars 2023 dans Urbania. Quand OpenAI, la compagnie derrière le populaire robot conversationnel ChatGPT, a été fondée en 2015, il y avait quelques balises en place ainsi que des valeurs pour guider l'équipe. Sa mission était de faire avancer l'intelligence artificielle d'une manière qui bénéficiera l'humanité entière sans les contraintes de générer des revenus. Par crainte que des investisseurs qui cherchent à tirer profit de l'intelligence artificielle ne finissent par corrompre la recherche, il fallait, pour des raisons éthiques, que l'entreprise reste une OBNL indépendante. En effet, le fondateur avait peur 1. Que l'intelligence artificielle ne devienne la plus grande menace qu'ait connue l'humanité, et 2. Qu'une technologie aussi puissante et sans réglementation gouvernementale se transforme en catastrophe capitaliste. Et en ce sens, difficile de trouver un meilleur exemple que le fondateur d'OpenAI, Elon Musk. Ayant eu plein d'idées douteuses qu'il a réussi à financer depuis, Musk n'est plus rattaché à OpenAI depuis plusieurs années et est même devenu l'un de ses détracteurs les plus bruyants. OpenAI a été créé pour être une compagnie open source. C'est pourquoi je l'ai appelé OpenAI, sans but lucratif qui servirait de contrepoids à Google, a tweeté Musk en février. C'est maintenant une compagnie à source fermée et à profit maximum, contrôlé dans les faits par Microsoft. C'est assez rare que je sois du côté d'Elon Musk, mais il a peut-être un point. Premièrement, nous sommes encore loin d'une réelle intelligence artificielle. Même les créateurs de ChatGPT peinent à comprendre pourquoi tout le monde capote pour un outil aussi simple et brut. Deuxièmement, comment fait-on pour s'assurer qu'elle profite à tout le monde sans se ramasser dans un monde où l'on reçoit nos nouvelles, notre assistance médicale ou notre éducation par intelligence artificielle, tandis que des gens riches se vantent entre eux d'avoir le meilleur tuteur ou médecin humain? Robotisation versus automatisation. La force de l'intelligence artificielle, c'est sa rapidité et sa connaissance. Une bonne intelligence artificielle peut en quelques secondes traiter une large quantité de données et vous en faire un résumé dans le style de votre auteur préféré. C'est pourquoi son utilisation généralisée est bientôt attendue dans des domaines comme ceux du droit juridique, de l'éducation, des services financiers ou encore des soins de santé et, à des degrés variables, en technologie où elle fait déjà partie de notre quotidien. Pensez-y bien, quand l'iPhone est sorti, on ne pouvait même pas s'imaginer à quel point il changerait presque tous les aspects de nos vies. Comme le techno-philosophe et entrepreneur Kai-Fu Lee l'explique dans son livre All 2041, 10 Visions for Our Future, nous avons tendance à surestimer ce qu'une nouvelle technologie peut faire pour nous dans 5 ans, mais à sous-estimer ce qu'elle pourra faire dans 20 ans. Aujourd'hui, grâce à des avancées technologiques et industrielles, l'humain moyen est à 61,8% plus efficace. Toutefois, le salaire horaire moyen n'a augmenté que d'un peu moins de 20% et le sommet du classement des gens les plus riches de la Terre est largement peuplé de patrons du secteur de la technologie. Vous écoutez, l'intelligence artificielle accentuera-t-elle les écarts de classe sociale? Un texte de Billy F. paru le 14 mars 2023 dans Urbania. Ils volent nos jobs. L'une des grandes craintes sociétales que l'on a, et qui n'est pas infondée, est que les PDG les moins scrupuleux tentent de remplacer leurs employés par des robots et par de l'intelligence artificielle. Et il est vrai que des métiers seront repris par la technologie, devenant donc moins chers et plus efficaces. Si votre job se résume à pousser du papier, évaluer et approuver des dossiers ou même à assurer le service client par clavardage, je suis désolé, you're out. Selon un rapport de la firme McKinsey, seulement 5% de tous les jobs sur la planète pourraient être entièrement robotisés ou automatisés. C'est considérable, mais ça reste petit. Par contre, 60% de tous les jobs risquent de devenir automatisés à 30%. Dans les prochaines années, donc, nous commencerons, volontairement ou non, à repenser notre manière de travailler, mais aussi de former, d'enseigner et de conscientiser la nouvelle force de travail. Et si les choses sont bien faites, vous pourrez profiter de robots ou d'outils semblables à ChatGPT pour accomplir toutes sortes de tâches plates, répétitives et administratives, vous laissant du temps essentiel pour vous concentrer sur votre travail. Pensez par exemple à des employés des GAFAM, à qui les hauts salaires peuvent être attribués en partie au fait que ces compagnies utilisent déjà l'intelligence artificielle comme outil de travail. Et maintenant, songez à ce que cela pourrait changer dans le monde de la construction. Des matériaux et des pièces imprimées en 3D qui s'imbriquent les unes aux autres comme des Legos, des drones pour surveiller le chantier ou transporter des outils qui seront eux-mêmes dotés d'intelligence artificielle pour réaliser le travail le plus précis possible. Une intelligence artificielle, malheureusement, à notre image. Toutefois, on a encore beaucoup à faire pour que l'intelligence artificielle soit vraiment intelligente. Les algorithmes sont actuellement aux prises avec ce qu'on appelle un biais négatif qui les empêche de prendre en compte toute la diversité de l'humanité, ce qui peut fausser leurs résultats. En termes simples, on se ramasse avec une intelligence artificielle qui n'a aucun problème à reconnaître le visage d'un homme blanc, mais peine à distinguer le genre de femmes noires comme Oprah ou Serena Williams, les identifiant comme mâles, voire comme gorilles. Même le robot conversationnel ChatGPT a des dérives qui, s'il avait été humain, l'auraient cancelled. Par exemple, les blagues racistes et transphobes qu'il a rédigées pour une fausse sitcom générée par intelligence artificielle ou encore lorsque la version intégrée dans Bing a tenté de convaincre un journaliste du New York Times de laisser sa femme pour être avec lui. Malgré toutes les avancées sociales dans le monde de la technologie, reste que cette industrie, et surtout celle de l'intelligence artificielle, est encore largement dominée par des hommes blancs hétéros. Les algorithmes qu'ils créent sont donc à leur image. Une histoire trop prévisible. Le problème que même un être aussi mégalo que Musk a compris, c'est que tant que les motivations pour créer des intelligences artificielles et les rendre toujours plus performantes tourneront autour de la volonté de s'enrichir, ces intelligences artificielles porteront elles aussi cette avidité économique. Et tant que les efforts seront mis sur le fait de créer des robots qui remplacent des humains, de vrais humains perdront leur emploi, tandis que leur argent ira dans la poche de leurs anciens employeurs, mais aussi celle des créateurs de ces robots. Il serait donc plus judicieux de donner à ces intelligences artificielles la mission de créer de nouvelles choses. Sinon, on se ramasse avec une situation comme celle des États-Unis où 70 % des inégalités de classe entre 1980 et 2016 peuvent être attribuées à l'automatisation. Plusieurs industries que des outils comme l'intelligence artificielle sont censés révolutionner, comme la médecine ou les finances, sont déjà des milieux qui doivent composer avec leurs propres problèmes d'inégalité. Remplacer des humains par une version bootleg intelligence artificielle dont les préjudices n'ont pas été signalés et corrigés peut donc potentiellement devenir dangereux. Si on laisse le capitalisme se charger de consolider les bases qui régiront l'intelligence artificielle, on sait déjà à quoi le futur va ressembler. Option 1. L'intelligence artificielle devient un game changer absolu, voire essentiel, mais cher et auquel seuls les mieux nantis auront accès. Ou 2. Votre cousin chiant et riche passera les prochains Noëls à se targuer d'avoir un médecin humain et des enfants qui vont à un collège privé anti-intelligence artificielle, puis vous n'aurez personne à qui en parler jusqu'à votre prochaine session avec un psy intelligence artificielle. Car, comme le prévenait déjà en 2016 l'expert montréalais Joshua Bengio, l'intelligence artificielle sera une grande source de richesse. Mais pour qui? C'était « L'intelligence artificielle accentuera-t-elle les écarts de classe sociale? » un texte de Billy F. paru le 14 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.